Henry James, Cousin et Cousine. Chapitre 1. Comme je me proposais de retourner aux États-Unis vers le milieu du mois de juin, je résolus de profiter des 6 semaines qui me restaient pour visiter l'Angleterre, que je ne connaissais pas encore. Durant mon voyage en Europe, j'avais toujours donné la préférence aux vieilles auberges, qui, si elles sont parfois moins confortables que nos immenses caravansérails modernes, offrent à l'observateur des sujets d'études plus fertiles en imprévus. À mon arrivée à Londres, je m'installai donc dans une antique hôtellerie située assez loin du centre de la ville, au milieu d'un quartier qui me rappelait l'époque déjà classique du docteur Johnson. Le premier soir de mon séjour, je descendis dans la salle à manger, où je commandai mon dîner au génie même du décorum, personnifié par un serviteur en cravate blanche, aussi raide qu'obséquieux. À peine eus-je franchi le seuil de cette salle, que je me sentis destiné à récolter une ample moisson d'impressions britanniques. L'auberge du Lion Rouge, comme beaucoup d'autres choses que je devais rencontrer en Angleterre, semblait n'avoir résisté aux ravages du temps qu'en prévision de ma visite. Je connaissais de longue date la taverne du Lion Rouge. Les livres et mes visions me l'avaient montré 1000 fois. Smollett, Boswell, Dickens me l'avaient décrite. Elle était peu spacieuse et divisée par des paravents d'acajou en 6 compartiments, garnis de chaque côté de banquettes non rembourrées. Dans chacune de ces stalles se trouvait une table sans convives, car les beaux jours du Lion Rouge étaient passés, ne laissant que des fantômes. Tout autour de la salle, à hauteur d'appui, régnait une superbe boiserie d'acajou noircie par l'âge et rendue si brillante par un frottement quotidien que je m'imaginais voir s'y refléter l'image de voyageurs en perruque et en culotte courte. Une douzaine de gravures, jaunies par la fumée du charbon et des pipes, ornaient les murs. Le favori du derby de 1807, David Garrick, 2 boxeurs célèbres, et Sa Majesté, le roi George IV. Le parquet disparaissait sous un tapis de Perse aussi vieux que l'acajou, et dont il eût été impossible de distinguer le dessin primitif. Je me suis flatté en me vantant d'avoir commandé mon dîner. J'avais rêvé une côtelette d'agneau aux épinards et une charlotte russe, tandis qu'il me fallut accepter l'offre d'un beefsteak et d'un pudding au riz. Les pieds appuyés sur la traverse de ma table de chêne, j'opposais auparavant cette résistance dorsale qui, aux yeux des Anglais d'autrefois, représentait le repos. Le craquement de mes jointures m'apprit que la cloison possédait toute la solidité désirable. Pendant que j'attendais, je vis entrer par la porte donnant sur l'intérieur de l'hôtel un des rares locataires de la maison qui, comme moi, avait dû se laisser imposer un menu car le couvert se trouvait mis d'avance dans un compartiment voisin du mien. Il se dirigea vers la cheminée, tourna le dos au feu et consulta sa montre. Sa taille dépassait un peu la moyenne et il eût été difficile de préciser son âge. Il n'était plus jeune, bien qu'aucun fil d'argent ne sillonnât l'ébène de ses cheveux, dont la couleur, tout en s'harmonisant avec son teint maladif, ne s'accordait guère avec celle de ses yeux d'un gris pâle et trouble. Une longue moustache noire ombrageait ses lèvres. L'ensemble de la physionomie, malgré sa beauté régulière, annonçait un grand manque d'énergie ou un profond découragement. Sa mise était sinon élégante, du moins très soignée. Le garçon s'approcha de lui et murmura d'une voix insinuante les mots « Xérès, Porto », puis d'un ton dédaigneux le mot « Bière », qui provoqua un signe de tête affirmatif. Évidemment, mon voisin de table ne roulait pas sur l'or. Je reconnus aussi que je n'avais pas affaire à un Anglais. Je fus tenté de le prendre pour un Russe, auquel les chances du tapis vert n'ont pas été favorables. Il me rappelait certains types de joueurs moscovites que j'avais rencontrés sur le continent. Tandis que je me livrais à des hypothèses sur son compte, car il commençait à m'intéresser, elles furent soudain interrompues par l'arrivée d'un petit homme à barbe rouge dont la mine vulgaire n'était relevée que par un regard perçant d'une mobilité insaisissable. Mon Russe, resté seul, se tenait toujours debout devant le foyer et semblait plongé dans une triste rêverie. L'autre marcha droit à lui, armé de son parapluie, et le toucha entre les côtes avec le bout de cette arme inoffensive en s'écriant « Parions $10 que je devine à quoi vous pensez !» Son ami poussa une exclamation, releva la tête et posa les mains sur les épaules du nouveau venu. Ce dernier dirigea de mon côté un regard scrutateur et prit ma mesure en un seul clin d'œil. Lors même que je n'aurais pas déjà été renseigné, ce coup d'œil eût suffi pour me révéler un compatriote. Ils causèrent un instant, mais je ne distinguais que quelques mots décousus. En homme pratique, mon Yankee proposa bien vite de se mettre à table. Dès qu'ils furent assis, je m'aperçus que, sans indiscrétion de ma part, j'assistais en intrus à leur entretien. Les voix que j'entendais appartenaient à deux Américains, ce qui me surprit et me dépita, car il est rare que je me trompe sur la nationalité des gens. L'individu à barbe rouge, qui m'inspirait fort peu de sympathie, dit à son commensal « Vous auriez mieux fait de rester à New York. Vous avez dû être joliment secoué en route. » « Un temps affreux, » répliqua son hôte. « J'ai été malade depuis le moment où j'ai mis le pied à bord. » « En effet, je ne vous trouve pas bonne mine. » « Bonne mine ? C'est à peine si j'ai dormi 6 heures durant la traversée. Enfin, j'ai franchi l'Atlantique pour la première et la dernière fois. » « Allons donc, est-ce que vous comptez rester éternellement ici ?»« Ici ou ailleurs, mon éternité sera de courte durée. » Il y eut un moment de silence. « Toujours aussi gai, hein, Searle ? Nous allons mourir demain. » « Je le voudrais presque. » « L'Angleterre ne vous plaît donc pas ? Eh bien, tant mieux. » On répétait sans cesse là-bas que vous avez l'air et les goûts d'un Anglais. Mais je connais maintenant les Anglais. Vous ne leur ressemblez en rien, Searle. Et vous ne réussirez pas parmi eux. Aussi vrai que je m'appelle Simmons. » J'entendis le bruit d'un couteau et d'une fourchette qui retombaient sur la table. « Ma parole d'honneur, Simmons. J'admire votre délicatesse. Je me promène depuis ce matin dans cette maudite ville, en proie au mal du pays et à toutes sortes d'autres maux, songeant faute de mieux à cette rencontre. Et voilà ce que vous avez à m'apprendre. » Monsieur Simmons parut sensible à ce reproche, car il répondit d'un ton plus doux. « Voyons, ne vous démontez pas ainsi. Pensez au garçon. Je suis devenu assez anglais pour respecter les convenances. » « Au nom du ciel, pas de sentimentalité. Cela ferait rire les gens. Dites-moi en trois mots ce que vous attendiez de moi. » Je distinguais un nouveau mouvement, comme si le pauvre Searle se fût affaissé sur son siège. « En vérité, Simmons, vous êtes inconcevable, » répliqua-t-il enfin. « Vous n'avez donc pas reçu la lettre où je vous annonçais mon départ ?»« Ah si, parbleu, je l'ai reçue, et elle m'a causé une surprise fièrement désagréable. »« Ah, que le diable vous emporte !» s'écria Searle. « Après m'avoir amené ici, allez-vous m'abandonner, me trahir ?»« Allez toujours !» répondit l'imperturbable Simmons. « Lâchez l'écluse. Je patienterai jusqu'à ce que vous ayez fini. Oh, cette bière est exécrable, » ajouta-t-il en s'adressant au garçon. « Apportez-en une autre. » « J'ai fini, » reprit Searle. « Et il me semble que c'est à vous de vous expliquer. » Il y eut encore un moment de silence. On reposa bruyamment sur la table un pot d'étain vide, puis Simmons répliqua. « Mon pauvre ami, mon intention n'est pas de vous froisser. Je vous plains. Seulement, permettez-moi de déclarer que vous avez agi comme un niais. » M. Searle paraissait avoir fait un effort pour se calmer. « Soyez assez bon alors pour m'apprendre ce que signifiait votre lettre, » dit-il d'un ton moins irrité. « J'ai commis moi-même une sottise en l'écrivant. Attribuant cette erreur à ma stupide bienveillance, j'aurais dû vous laisser tranquille. Pouvais-je me figurer que vous seriez assez optimiste pour vous mettre aussitôt en route ? Que vous figuriez-vous donc ? Que vous me donneriez le temps de prendre de plus amples renseignements et de vous écrire de nouveau. Et vous avez pris des renseignements? J'ai obligé les hommes les plus compétents à me fournir, bon gré mal gré, des consultations gratuites. Et je n'ai aucun droit à cette propriété. Aucun droit légal. Pourtant, au premier abord, la chose m'avait semblé très claire. Grâce à votre absurde bienveillance. » Monsieur Simmons parut éprouver quelques difficultés à avaler sa bière. Oh, « Décidément, votre bière n'est pas buvable, » dit-il au garçon. « Donnez-moi de l'eau de vie. » « Voyons, Searle, » continua-t-il. « Pas d'ironie. Vous ne seriez pas le plus fort à ce jeu-là. » Ma bienveillance y entrait vraiment pour quelque chose. Le gain de la cause n'aurait pas nui à ma réputation, et j'ai calculé que les honoraires se seraient élevés à un joli chiffre. Cela y entrait aussi pour quelque chose, bien entendu. Puis, je vous assure que j'aurais été ravi de voir un Yankee jeter par la fenêtre les écus de ces bons Anglais. Je sacrifierais volontiers une partie de mes honoraires pour vous procurer l'occasion de vous distinguer dans votre spécialité. « Je ne jette plus rien par la fenêtre, Simmons. « Bah, vous ne demandiez pas mieux que de vous exercer sur moi tout à l'heure. « C'est égal. Je me suis donné assez de peine pour vous. J'ai consulté de force des légistes de premier ordre. Cela les a fait sourire. Je voudrais que vous vissiez le sourire négatif d'un gros bonnet du barreau anglais. La cause la mieux établie n'y résisterait pas. J'ai sondé l'avoué de votre parent. Il se trouvait averti. Il paraît qu'il y a une vingtaine d'années, votre frère George a lancé un ballon d'essai, de sorte que vous n'avez pas même la gloire d'avoir effrayé l'ennemi. « Je n'ai jamais effrayé personne, » répliqua Searle. « Je ne commencerai pas aujourd'hui. J'agirai toujours en gentilhomme. »« Eh bien, si vous tenez à vous conduire en gentilhomme, profitez de l'occasion et accepter tranquillement ce mécompte. J'avais achevé de dîner. Je m'intéressais assez vivement aux mystérieuses espérances qui avaient amené M. Searle à Londres, pour regretter de ne pas voir se refléter sur son visage les émotions dont sa voix me renvoyait comme un écho. Je me levai donc de table et je me dirigeai vers la cheminée, après m'être muni d'un journal derrière lequel j'établis un poste d'observation. L'avocat Simmons était en train de choisir un morceau à son goût dans un plat dont il examinait le contenu à l'aide de sa fourchette personnelle. Le client, désillusionné, avait repoussé son assiette. Il se tenait les coudes sur la table, le visage dans les mains. Son compagnon le regarda d'un air attendri, mais peut-être la bière et l'eau-de-vie y entraient-elles pour quelque chose. « Voyons, Searle, » dit-il, et je crois que me prenant pour un indigène, il voulait m'édifier, car il parlait d'un ton doctoral. « Dans ce pays, c'est le privilège inestimable de tout bon citoyen, soit que le chagrin l'accable, soit que la joie l'enivre, de ne jamais négliger son dîner. » Searle repoussa son assiette plus loin avec un geste de dégoût. « Peu importe ce qui peut arriver maintenant, » dit-il. « Je m'en soucie comme d'un fétu de paille. Vous devriez vous en soucier. Encore une côtelette et vous vous en soucierez. Un peu d'eau-de-vie ? Suivez mon conseil. » Searle regarda son interlocuteur. « J'en ai assez de vos conseils, » dit-il. « Laissez-moi alors vous adresser une question, » répliqua doucement Simmons. « Que comptez-vous faire ?»«
Rien, rien, rien. »
« Rien que mourir de faim, je suppose. Combien vous reste-t-il ? Pourquoi m'adressez-vous cette question ? Cela vous est bien égal. Mon cher, si vous désirez que je vous ouvre ma bourse, vous vous y prenez maladroitement. Vous avez dit tantôt que je ne vous connais pas. C'est possible. En tout cas, vous ne me connaissez pas. Je compte que vous retournerez là-bas. Je ne veux pas y retourner. Je mourrai ici. En êtes-vous sûr ? On peut toujours être sûr de cela. On dirait vraiment que la mort a fixé le jour, répliqua Simmons en haussant les épaules. Nous l'avons fixé, elle et moi. Tenez, Searle, ne vous mettez pas à blasphémer, ou je vous plante là, quoique je ne sois pas plus bégueule qu'il ne convient à un avocat. Si vous consentez à repartir avec moi par le paquebot du 23, je paie votre passage. » Searle parut réfléchir. « Merci, » dit-il au bout d'un instant. « Je crois que je n'ai jamais su vouloir quoi que ce soit. Il est certain pourtant qu'aujourd'hui, je veux une chose, rester ici jusqu'à ce que je prenne congé pour un monde plus nouveau que notre vieux nouveau monde. N'ai-je pas eu toute ma vie durant le mal de l'Europe ? Maintenant que j'y suis, pourquoi la quitterais-je ? Je vous remercie encore de votre offre. Il me reste 40 livres. Elles dureront aussi longtemps que moi. » À ce moment, le propriétaire de l'hôtel entra et vint m'annoncer que le numéro 12, un appartement bien supérieur, se trouvait libre, que j'y serais beaucoup mieux. Le sort du numéro 12 ayant été décidé, je m'occupais de nouveau des deux amis. Il s'était levé. Simmons avait endossé son pardessus et brossait son chapeau avec une serviette. « Avez-vous l'intention de visiter la propriété ? » demanda-t-il. « Oui. J'y ai tant rêvé que je voudrais la voir. Il me vient une idée, reprit Simmons, avec un sourire ou plutôt avec une grimace déplaisante. Il y a une Miss Searle, la sœur du vieux.
Eh bien, répliqua Searle en fronçant les sourcils.
Eh bien, si au lieu de mourir, vous l'épousiez. Searle fronça de nouveau les sourcils sans répondre. Simmons lui donna une petite tape sur le ventre.
Seulement, remplumez-vous un peu avant de vous présenter. Vous êtes trop maigre.
Le pauvre Searle rougit visiblement et ses yeux se remplirent de larmes.
Vous êtes une véritable brute, Simmons, s'écria-t-il.
La scène devenait pathétique. Elle fut interrompue par la rentrée de mon hôte qui insista pour me faire visiter le numéro 12. Une demi-heure plus tard, un cab me conduisait au théâtre de Covent Garden. À mon retour de l'opéra, je traversais la salle commune, espérant y retrouver M. Searle. Mon attente ne fut pas déçue. Je l'aperçus, assis près du feu, le menton sur la poitrine, plongé dans un sommeil tardif où il oubliait les insomnies de son voyage. Maintenant que ses paupières closes cachaient son regard indécis, je fus moins frappé de l'air de faiblesse morale que de l'expression noble et douce de ses traits. On dit que la fortune vient en dormant, et, tandis que je m'éloignais, je souhaitais que le proverbe pût se réaliser pour lui. Comme je me dirigeais vers la porte intérieure, je distinguais vaguement le garçon qui, assoupi au fond d'une des stalles, se redressa soudain, son éternelle serviette sous le bras, en s'écriant « Voilà, monsieur !» Le lendemain matin, l'objet de ma bienveillante curiosité ne se montra pas, et j'appris du garçon que M. Searle déjeunait dans son lit. Pressé de m'acquitter de quelques commissions, je dus traverser divers quartiers de la ville, et la matinée s'écoula vite. L'après-midi venu, me trouvant dans cette direction, je me décidai à visiter Hampton Court. Une demi-heure plus tard, je parcourais les nombreuses salles du vieux palais, dont le royal mobilier me charma fort peu, et qui n'offre guère d'autre attrait que les portraits des nobles dames au sein de neige peints par Lely ou Kneller. Du reste, cet unique attrait semblait avoir perdu sa puissance, car je me croyais seul à visiter ce château où régnait autrefois l'animation d'une cour. Tandis que je me livrais à des réflexions peu originales sur la vanité des grandeurs humaines, je faillis me heurter contre une personne qui contemplait avec admiration une beauté minaudière immortalisée par le pinceau de Sir Peter Lally. C'était mon colocataire du Lion Rouge, qui me reconnut de son côté et me salua poliment. Comme je tenais un catalogue à la main, il me pria de lui dire le nom de celle qui avait posé pour le portrait. Lorsque je lui eus donné le renseignement désiré, il me demanda, avec un certain air de timidité, ce que j'en pensais.
« Le peintre a tiré tout le parti possible de son modèle, » répliquai-je sans la moindre timidité. « Quant à la dame, si les chroniques du temps ne mentent pas, c'était une fière coquine. » Ma franchise et mon ton décidé ne parurent pas convaincre mon interlocuteur, à en juger par le dernier coup d'œil qu'il jeta sur la bergère au sourire provocateur. La glace une fois rompue, nous fîmes route ensemble. Dès que je lui eus dit que j'arrivais comme lui de New York, sa physionomie s'éclaira soudain. Il passa son bras sous le mien et se laissa guider par moi. Les remarques qu'il m'adressa chemin faisant annonçaient un esprit impressionnable et cultivé. Je retrouvais en lui ce bizarre mélange de raffinement naturel et de naïveté que l'on rencontre assez fréquemment aux États-Unis. Après avoir visité en touriste scrupuleux le reste du palais, je proposai à mon compagnon d'explorer les environs et de ne repartir que par un train du soir. Dans le village voisin, on nous servit un excellent repas. Monsieur Searle s'était mis à table de l'air d'un homme peu disposé à faire honneur au repas. Cependant, mon bon exemple lui profita, et au bout d'une demi-heure, il déclara que depuis un mois, il ne s'était pas senti un meilleur appétit. Le village de Hampton Court s'étend sur la lisière d'un beau parc. Le dîner terminé, j'allumai un cigare et nous nous dirigeâmes vers la grande avenue de Châtaignier.
« Ah, voilà bien l'Angleterre !» m'écriai-je, « avec sa verdure moderne et ses souvenirs féodaux. J'aurais regretté de mourir sans connaître le pays qui fut notre berceau. Moi, tout en aimant notre nouveau monde, j'ai toujours eu un faible pour ce vieux monde dont nous foulons le sol, répondit Searle. Je suis né conservateur. J'aurais dû venir ici plus tôt. Avant. Il se tut et baissa tristement la tête.
Avant d'avoir perdu votre santé, ajoutai-je.
Ma santé, ma fortune, mon ambition et ma propre estime, reprit-il.
Bah, dis-je, vous retrouverez tout cela. Le changement de climat fait des merveilles.
Il faudrait un miracle, répliqua-t-il d'un ton rêveur en contemplant le palais éloigné. Je voudrais être un des vieux gentilshommes logés aux frais de l'État dans ce château et passer mes jours à me promener à travers ces salles désertes où sourient ses favorites sans adorateurs. Je sais que vous les méprisez. Moi, je les admire et les plains. Pauvres femmes, si courtisées de leur vivant, si négligées aujourd'hui, montrant leurs blanches épaules et offrant leur sourire mutin à l'inexorable solitude.
Allons, dis-je en le frappant sur l'épaule.
Je maintiens ma prophétie, car les poètes ont la vie dure.
Au même instant, comme pour compléter le joli paysage anglais, nous vîmes s'avancer sous les ombrages de l'avenue une de ces jeunes et gracieuses Amazones d'outre-Manche qui semblent aussi à l'aise sur un cheval que dans un salon. Son groom était resté assez loin en arrière et, arrivée près de l'endroit où nous nous tenions, elle se retourna sur sa selle. Dans ce mouvement, elle laissa tomber sa cravache que mon compagnon s'empressa de ramasser et de présenter chapeau bas à la jeune fille. Celle-ci le remercia par un sourire qui valut certes ceux des beautés de Hampton Court, puis disparut au galop de son cheval. Lorsque Searle me rejoignit, je vis qu'il était aussi rouge qu'un collégien qui vient d'offrir son premier bouquet.
« Mon ami, je doute que vous ayez trop tardé à vous mettre en voyage, » lui dis-je en riant.
À peu de distance, un vieux banc de pierre s'offrit à nous, et nous nous assîmes pour contempler la brume argentée que les derniers rayons du soleil transformaient en vapeur d'or. Je jugeais l'heure propice pour interroger mon compagnon, dont le vin de Bourgogne avait délié la langue.
« Qu'êtes-vous ? Et qui êtes-vous ? »
lui demandai-je assez brusquement. Une subite rougeur colora de nouveau son pâle visage et je craignis d'abord de l'avoir offensé. Il demeura quelques minutes sans répondre, creusant la terre molle avec le bout de sa canne. « Qui je suis ?» répéta-t-il enfin. « Je m'appelle Clément Searle. Ce que je suis, c'est facile à deviner, rien, rien du tout, je vous assure. Je proteste. Vous êtes un très bon garçon, cela se voit. Vous venez de raconter mon histoire en deux mots. C'est pour avoir été un très bon garçon que je suis devenu une épave qui se laisse emporter par tous les courants. La sagesse n'a jamais débordé en moi. Raison de plus pour suivre une voie définie, pour se créer un but quelconque. Je n'ai pas su. Parcourez New York, et vous trouverez les lambeaux de mes sympathies et de mes sentiments, accrochés à tous les buissons épineux, flottant à toutes les brises. Mon tort a été de ne croire qu'au plaisir. J'avais quelques fortunes et des goûts peu vulgaires. De tout cela, il me reste une quarantaine de livres que j'ai là dans ma poche et un petit volume de vers imprimé à mes frais il y a 15 ans, où je célébrais les charmes de l'amour et de la paresse. Le hasard me les a fait retrouver la semaine dernière, on dirait qu'ils datent du siècle dernier. À 30 ans, je me suis marié à une jeune fille pauvre, très belle et sans éducation. Je commis là une triste erreur, mais une erreur généreuse, que ma femme au moins n'eut pas le temps de regretter, car elle mourut bientôt. Ensuite, je repris mes vieilles habitudes, promenant mon ennui partout où l'on s'amuse. Sans vanité, j'étais fait pour mieux que cela. N'allez pas me prendre pour un de ces ennuyeux théoriciens du lendemain qui se plaisent à accuser le destin du naufrage de leur existence. Le monde où je me trouvais n'était pas celui que je rêvais. Voilà mon malheur. Je ne rencontrais que des angles aigus et des couleurs criardes. J'allais, jetant mes écus par la fenêtre, pour arrondir les contours et adoucir les tons. Ah, le joli clair-obscur que j'ai laissé sur ma piste. Dans ce vieux pays, dans ce vieux parc, je sens que je plane sur les vagues limites de ce qui aurait pu être. C'est ici que j'aurais dû naître. Ici, ma vulgaire paresse n'eût été qu'un loisir élégant. Pourquoi ne suis-je pas venu plus tôt? Dieu sait. Les dettes et la peur du mal de mer ont sans doute servi à me retenir. Enfin, un beau jour, je me rappelais certaines revendications au sujet d'une propriété anglaise à laquelle divers membres de ma famille ont prétendu avoir des droits. Oh, c'est une affaire très compliquée qui remonte à plus de 3/4 siècle. Et que je ne me charge pas de vous expliquer, bien que j'ai passé 6 mois à étudier des paperasses jaunies. Le soir, je ne m'endormais jamais sans être à moitié convaincu que j'allais me réveiller dans un manoir britannique. Enfin, assez récemment, un avocat de New York qui se rendait à Londres offrit de tâter le terrain. C'est avec lui que vous m'avez vu dîner. Malgré ses manières communes, il se vante avec raison d'être un fin limier. Au bout de 6 semaines, il m'écrivit qu'il serait fort surpris s'il n'y avait pas quelque chose à en tirer. Poussé par la pauvreté, me voilà en route pour l'Europe. Hier, mon précieux Simmons m'annonce, la bouche pleine, que je ne suis qu'un sot et qu'il faut abandonner tout espoir. Je suis déjà résigné. Je me doutais, au fond, qu'une dernière illusion viendrait couronner mes illusions passées. J'aimais l'Angleterre avant de la connaître, et l'idée de mourir ici me rend heureux. Seulement, ajouta-t-il en hésitant et en posant la main sur la mienne, Il me reste encore un souhait à former. Mes heures sont comptées, je le sais, et je voudrais que vous puissiez être avec moi jusqu'à la fin. »
« À la condition que vous renoncerez à ce ton sépulcral, » répondis-je.
« La fin, c'est peut-être le commencement. » Il secoua tristement la tête. « Je suis incurablement malade, » dit-il.
« Je soupçonne que votre mal est plutôt moral que physique. Ce que vous venez de me raconter me prouve que vous avez trop vécu en vous-même. Changez de système. Promenez votre esprit au dehors.
Lorsque vous trouverez un pendu, ne coupez pas la corde, » répliqua-t-il en fixant sur moi son regard indécis et avec un faible sourire.
Ceux qui se pendent ont leur raison. Je suis ruiné.
La santé, c'est l'argent. La santé revenue, tout ira bien. Je m'intéresse à votre affaire d'héritage. A-t-on jamais fixé un chiffre ?
Simmons parlait de 85 000 $. Pourquoi 85 000 $? Je n'en sais rien.
Cette somme, du reste, est insignifiante, comparée à la valeur entière de la propriété dont il s'agit.
Encore une question, quel est le propriétaire actuel ?
Sir Richard Searle, que je ne connais en aucune façon.
Il est votre parent ?
Mon grand-père et le sien étaient frères utérins.
Mettons alors que vous soyez cousins.
Et où demeure votre cousin ?
À Loxley Park, dans le comté de Hereford.
Je réfléchis un instant. « Je m'intéresse à vous, monsieur Searle, » repris-je,
« à votre histoire, à votre héritage, fantastique ou non,
et à Loxley Park. Si nous allions voir la propriété. » Il se redressa avec une vivacité qui me parut de bon augure.
« Je n'aurais jamais eu le courage d'accomplir seul le pèlerinage, » répondit-il.
« Mais avec vous ?»«
J'irai volontiers. »«
Battons le fer pendant qu'il est chaud, » m'écriai-je. « Nous partirons demain. »«
Pour le moment,
il faut songer à regagner Londres. »